chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons parlé lors de la catéchèse précédente de l'espérance, de ce que c'était que la vertu théologale d'espérance. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment Marie a vécu cette vertu. Bien sûr, vous le savez, elle avait la foi, Marie. Elle a grandi dans la foi. Elle avait l'espérance. Elle a grandi dans l'espérance. Elle avait la charité. Elle a grandi dans la charité. Le cas de Marie est tout à fait particulier car elle est d'emblée immaculée et elle passe du plein au plein. Nous, souvent, on passe du moins au plus, des ténèbres à la lumière. Elle est d'emblée, dès sa conception immaculée, investie du règne de la divine volonté. Elle est reine dès sa conception, de l'univers, visible et invisible. Dans sa conception, comme je vous le disais dans la catéchèse précédente, elle est dans tout son être, dans tout ce qu'elle est, dans tout son mystère, la manifestation de la victoire de Dieu sur le péché, sur le mal, sur la mort. Alors, c'est un cas unique, un cas singulier. On a vu le plus beau fruit de la création et le plus beau fruit de la rédemption, de la croix de Jésus. Alors, elle possède la vie de la divine volonté. Comment est-ce qu'elle va faire pour exercer alors sa foi, son espérance, sa charité? Aujourd'hui, nous parlons de l'espérance de la Vierge Marie qu'elle veut nous communiquer pour que nous vivions de son espérance, c'est-à-dire de la qualité, de l'intensité, de la fermeté de son espérance. C'est la même que la nôtre, comme sa foi est la même que la nôtre. Mais avec une qualité extraordinaire, une pureté. Et c'est la pureté, la qualité de l'espérance de la Vierge Marie dont nous pouvons vivre. Pourquoi ? Parce qu'elle est notre mère. Et le trésor de la mère appartient à l'enfant. Du coup, Marie, merci de nous donner part à la qualité, à la profondeur, à la hauteur, à la largeur de ton espérance. Nous, on est désespérés, découragés, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et alors on dit, Seigneur, au milieu de ma galère, j'espère en toi. Oui, au milieu de mes ténèbres, j'espère en ta miséricorde. Marie, c'est un petit peu différent. Pour essayer d'entrer dans ce grand mystère de l'espérance de Marie qu'elle nous offre, pour que nous en vivions, nous allons parcourir un petit passage de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 4, verset 26 jusqu'au verset 32. Jésus disait « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre. Qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. Et il disait, comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le figurer? C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères, et il pousse de grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Notre bon Jésus qui nous parle du royaume de Dieu, et quel est le lien avec l'espérance de la Vierge Marie ? C'est que Dieu parle et sa parole ne revient pas vers lui, comme il dit lui-même dans Isaïe, sans avoir porté tous ses fruits. La parole de Dieu est vivante. C'est une semence. Jésus nous parle, vous connaissez comme moi la parabole du semeur qui est sorti pour semer, qui sème justement la parole et qui tombe dans différents terrains et qui laisse, selon la qualité du terrain, plus ou moins la parole portée du fruit. Jésus, pour nous parler de la parole de Dieu, porteuse d'une croissance vitale, qui débouche sur des fruits, sur des branches, sur une fécondité extraordinaire, nous parle de vivant. Une semence nous parle d'un processus vital qui se déploie et qui arrive à terme. La parole de Dieu donc est porteuse d'une puissance extraordinaire, mais qui se déploie dans le temps avec une croissance. Il y a déjà tout l'arbre dans le gland. Mais au début, c'est un gland. Et puis, il faut tout un processus. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Il y a tout un processus qui fait que ça devient un arbre. C'était déjà un arbre, mais dans un état différent, différencié. La parole de Dieu, lorsqu'elle est semée en nous, elle est porteuse en elle-même d'une puissance de résurrection. C'est à la voix du Fils de l'homme que les morts ressusciteront. La parole de Dieu, il y aura les trompettes. Et alors l'espérance, là-dedans, la foi consiste à accueillir la parole de Dieu, à y croire. Quand Dieu parle, j'écoute ce que dit le Seigneur et j'adhère, je donne mon consentement libre. J'adhère à Dieu qui me parle et j'adhère à sa parole. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Et donc j'y crois quand il me dit « ne crains pas », eh bien, je ne crains pas. Quand il me dit « je suis ta lumière et ton salut », je crois. Quand il me dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », je crois. L'espérance, qui est évidemment la sœur de la foi, mais qui n'est pas la foi, elle va regarder et accompagner le processus de la parole de Dieu qui est chargée de promesses. Une semence est chargée de promesses. Un embryon est chargé de promesses. Et c'est déjà quelqu'un. C'est déjà une personne humaine. Ah, c'est pas un adulte, non. Mais c'est une personne humaine, chargée de promesses. Et alors, dans la création, c'est comme ça. et dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. L'espérance de Marie va accompagner Dieu qui est à l'œuvre. Bien sûr, avant l'incarnation, l'espérance de Marie récapitule, elle ramasse en elle toute l'espérance de ce peuple messianique qu'est le peuple d'Israël, qui attend la venue du Messie avec des figures différentes. Mais il y a une espérance réelle qui est là. Elle vient d'où cette espérance? De Dieu lui-même qui a promis. Il a promis qu'il enverrait son Messie, libérer Israël et sauver son peuple du péché et de l'oppresseur. Les oppresseurs et l'oppresseur qu'est le démon. Dieu avait promis, il avait parlé et dans ses paroles, il y avait différents genres littéraires, différentes manières de dire les choses et avec une caractéristique de promesse, une couleur de promesse. Dieu avait promis qu'il enverrait quelqu'un qui serait oint rempli de son esprit, multiforme, septiforme. Il avait dit comme ça des choses qui devraient arriver. Alors ces prophètes s'étaient fait les porte-paroles des promesses de Dieu, et ceux et celles qui accueillaient la parole de Dieu par les prophètes se mettaient en route non seulement dans la foi, mais gagnaient, grandissaient dans l'espérance. Quand Dieu dit « J'enverrai mon Messie, je te sauverai, je vais te libérer », ceux et celles qui adhèrent à la parole et qui comprennent que cette parole doit s'accomplir dans le temps, ça les met dans l'espérance et dans une attente paisible du jour de Dieu, du jour du Seigneur. Marie, avant l'incarnation, brûle du désir que non seulement le peuple d'Israël, mais que toute l'humanité accède au salut, sorte de l'esclavage du démon. Et elle a dans son cœur un feu ardent qui la brûle, parce que elle aime Dieu et elle a compassion de Dieu. Elle aime chacun de nous et elle a compassion de nous. Et elle voit bien que sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Elle voit bien que sans le Sauveur, on est foutu. Et elle voit bien que livrés à notre volonté propre, il ne nous arrive que des malheurs. Alors, elle voit ce décalage énorme entre le dessein de Dieu sur nous et notre vie pitoyable. Alors, elle ne nous juge pas, elle ne nous condamne pas, bien sûr. Elle est prise de compassion pour Dieu. Elle a hâte que le Seigneur accomplisse ses promesses. Elle sera saluée par Élisabeth comme bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Car quand Dieu parle et quand la parole de Dieu est une semence vitale qui doit se déployer dans le temps, Marie garde la parole. Elle la retient dans son cœur et la gardant, elle accompagne le déploiement, la parole de Dieu qui se déplie dans le temps et qui s'accomplit. Écoutons ce que nous disait Jérémie, ce que le Seigneur nous dit par Jérémie. « Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle du Seigneur, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » C'est bon, vous êtes dans l'espérance. Vous croyez que Dieu a des desseins, non pas de malheur, mais de paix, pour nous donner un avenir et une espérance. Bien sûr, ce n'est pas un avenir matérialiste, hein, où chacun pourrait vaquer à ses convoitises et faire ce qu'il veut, comme il veut, en dehors de Dieu, avec qui il veut, et gagner tout pour lui, vivre pour lui. Non, ça n'intéresse pas justement le bon Dieu. Il vient nous sauver du péché, de l'individualisme, et de notre ego, et de notre péché, et de toutes ces misères, et de cette vie misérable. Ça ne l'intéresse pas. Si nous avons, nous, des projets pour nous, pour nous-mêmes, de domination, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse le bon Dieu, c'est de voir des êtres humains, ici-bas, sur cette terre, qui sont partants pour vivre de sa vie à lui, ici-bas. Moi, je sais les desseins que je forme pour vous, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous pourrez aller revoir dans vos Bibles, c'est dans Jérémie chapitre 29, verset 11. 29, 11. Alors, voilà que Marie vit en elle, récapitule en elle toute l'espérance de son peuple. Et quand c'est le moment, ça y est, l'ange entra chez elle. Elle croit en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle touche. Elle arrive au port. Le Verbe se fait chair en elle. Et il a habité parmi nous. Voilà que d'un coup, elle porte celui qui accomplit toutes choses. Première étape décisive. Dans ce dessein merveilleux de paix, non de malheur, que le Seigneur a formé pour nous. Et Marie, portant en elle Jésus, le Verbe qui s'incarne en elle, elle va le porter. Elle est cette bonne terre où la semence divine vient sans le concours de Saint Joseph. Elle conçoit du Saint-Esprit le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et elle s'offre totalement au Seigneur, comme elle le fait depuis tout petite, pour réconcilier le monde avec Dieu, pour permettre au Sauveur de venir sauver nous. Car c'est comme ça qu'on répond à la compassion que nous avons à l'égard de Dieu et à l'égard de nos frères et sœurs, c'est en s'offrant au Seigneur. Alors elle s'offre, elle offre tout elle-même, son corps, sa chair, son sang, que le Verbe, en s'incarnant, va venir puiser pour grandir en elle. Vivre en elle, grandir en elle, sortir d'elle, en la consacrant, en n'altérant pas sa virginité, mais en la consacrant. Et voilà que, sortant de son d'elle, à Noël, il ne sortira jamais d'elle, en esprit et en vérité. Elle le portera toujours en elle, ce Verbe incarné. Car le Verbe parcourt la terre, nous dit l'Écriture. Rapide, son Verbe la parcourt. Et Marie continuera, depuis ce moment béni de l'incarnation, et tous les jours de sa vie, à accompagner Dieu à l'œuvre. Le royaume de Dieu est là. La semence est jetée. Ça pousse. Qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. Alors, dans le monde scientifique dans lequel on est, avec toutes nos loupes, nos microscopes, etc., etc., si, si, les scientifiques vont tout expliquer comment ça se passe maintenant. Mais une mère, imaginez 2 secondes qu'il n'y ait pas tout cet appareil scientifique. Je sais pas bien, ça pousse. C'est en elle. Ça pousse. Marie, elle va continuer à s'offrir au Seigneur pour accompagner le Verbe fait chair dans son œuvre de rédemption. Et elle va contempler de ses yeux ce que la présence de Jésus produit dans les âmes, la présence physique. Alors, il y aura les petits bergers, il y aura les mages, mais il y aura aussi le massacre des innocents. Il y aura les premiers disciples, l'entourage familial. Il y aura aussi chez les disciples les reniements, les trahisons, la lâcheté. Comment Marie va vivre l'espérance au milieu de toute cette vie, j'allais dire apostolique, de Jésus? Eh bien, justement, avec un cœur éminemment contemplatif. L'espérance nous rend contemplatifs. L'espérance nous permet d'accompagner Dieu à l'œuvre et de nous réjouir et de souffrir avec lui et de tenir dans la constance. Des vertus qui sont très liées à la vertu théologale de l'espérance, c'est l'endurance, la persévérance, le courage. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps et que Dieu est à l'œuvre et que le petit Simon, pêcheur de poissons en Galilée avec sa famille, le petit Jean, le petit Jacques de Zébédée avec ses filets, et voilà que Jésus va les chercher. Et puis entre ce moment, le premier appel, ça y est, il y a quelque chose qui bouge dans leur cœur. Et puis avec des hauts et des bas, et puis ça finira au martyr à Rome pour Pierre. Tout cet itinéraire est accompagné par l'espérance de Marie. L'espérance de Marie a été d'un réconfort et d'une force impressionnante pour, par exemple, Simon-Pierre. Le jeudi saint, si vous voulez, Simon-Pierre croise le regard de Jésus, il pleure amèrement. Heureusement pour lui, il y avait la présence de Marie. Silencieuse, mais silencieuse parce que étant l'expression justement de l'espérance qui ne déçoit pas, c'est-à-dire Marie regardant Pierre tombant, elle ne s'inquiète pas, elle ne panique pas, elle ne crie pas, elle ne hurle pas, elle ne s'énerve pas. Elle ne dit pas « Mais Pierre, t'exagères quand même, t'es le premier pape !» Non, non, elle n'est pas comme ça, non. L'attitude de l'espérance dans Marie, dans le cœur de Marie vis-à-vis de Pierre, mais vous comprenez que c'est à l'égard de chacun de nous. C'est de dire « Non, non, dans le cœur de Pierre, il y a une semence qui est semée. Ça pousse. Et ça va aboutir à des branches, à une moisson, à une fécondité. Et il y aura plein d'oiseaux qui vont venir boire au cœur de Pierre, de Saint-Pierre. » Oui, comment ça se fait? Parce que Dieu est à l'œuvre et qu'il accomplit sa volonté. L'espérance est très liée à la volonté de Dieu qui s'accomplit. La foi, elle est très liée à la parole de Dieu. J'adhère dans la foi à la parole de Dieu qui est vérité. La charité est très liée à l'Eucharistie. Eh oui. nourriture de notre amour. Ce qui nourrit notre espérance, c'est la volonté de Dieu. La nourriture de l'espérance, c'est la volonté du Père. Normalement, si nous aimons la volonté du Père et si nous accompagnons Dieu à l'œuvre, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos frères, de nos proches, de nos amis, de ceux qui vont pas bien, de ceux qui tombent, de ceux qui se découragent, de ceux qui prennent des chemins de traverse, de ténèbres, et puis dans notre entourage, et puis dans nos connaissances, et puis dans l'Église, et puis dans le monde. Si nous restons, si nous tenons dans l'espérance, normalement, on ne s'affole pas. Je répète, si nous tenons dans l'espérance, normalement, on ne s'affole pas. Retournons chez Jérémie, non plus au chapitre 29, mais au chapitre 17, qui nous dit au verset 7 jusqu'à 8. Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Alors il y a une autre traduction qui dit dont le Seigneur est l'espérance. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Ça alors, comment ça se fait? Attends, c'est pas possible ça. Pas possible, normalement, nous, on panique de tout. Dès qu'arrive la chaleur, c'est la cata, réchauffement climatique, on va tous mourir. Notre feuillage se dessèche. Une année de sécheresse, on est dans la panique et on arrête de porter du fruit. Vous voyez, bon. Celui qui se confie dans le Seigneur et qui met son espérance en lui, eh bien, ressemble à un arbre planté au bord des eaux et qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Pourquoi son feuillage reste vert? Pourquoi? Parce qu'il est sans inquiétude et il ne cesse pas de porter du fruit, parce qu'il n'attend pas que les événements extérieurs viennent le troubler. Il est enraciné dans la volonté du Père. Il se nourrit. C'est quoi la nourriture de celui qui est dans l'espérance? C'est la volonté du Père. J'ai une nourriture, un aliment que vous ne connaissez pas. Disait Jésus aux apôtres qui arrivaient justement, ils revenaient de faire des courses. Et puis, tu veux manger? J'ai dit, non, manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Bon, c'est quoi? Oui, c'est d'accomplir, de mener à bonne fin ce que le Père m'a donné d'accomplir. C'est la volonté du Père, ma nourriture. Alors Jésus, lui, n'a pas d'espérance, au sens strict, il n'a pas de vertu d'espérance, parce qu'il est objet d'espérance. Hein. On ne peut pas être du côté de la vertu et du côté de l'objet en même temps. Comme Jésus n'a pas la foi théologale, non. Et il est celui qui révèle, il n'a pas besoin de croire en ce qu'il dit. Hein. Bon, ok. Mais sa volonté humaine fait une avec sa volonté divine, qui est substantiellement la même que celle du Père. Et la volonté divine nourrit son âme. Et il est là pour accomplir la volonté du Père. Alors voilà, je vais terminer cette catéchèse en disant à la Vierge Marie: nous recevons aujourd'hui la qualité de ton espérance. Et nous choisissons de nous inquiéter de rien. Une année de sécheresse, on reste vert. Pourquoi? Parce qu'on a des racines. Oui, on a des racines. Elles sont où nos racines? Elles sont en Dieu. Et que fait Dieu? Il accomplit ce qu'il a à accomplir et son œuvre et merveilleuse. Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous. Ah ben, si tu sais, alors on te fait confiance. Si toi, tu sais, mon Seigneur, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour ma famille, ce qui est bon pour mon couple, ce qui est bon pour mon enfant, ce qui est bon pour l'Église, pour le monde. Si toi, tu sais, mon Seigneur, et si toi, tu es en train de former et d'accomplir ces desseins, tes desseins, à toi, et qui sont des desseins de paix, non de malheur, et que tu veux nous donner à travers tout ça un avenir et une espérance, alors on est d'accord. Et nous t'accompagnons, Seigneur, parce que ce que tu as semé, tu le fais arriver au terme, jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout. Et tu as dit à la croix, Jésus, tout est accompli. Et nous croyons en l'accomplissement des promesses. Nous croyons en l'accomplissement des merveilles du Seigneur, de l'accomplissement de sa volonté, de ses desseins. Nous y croyons et nous espérons, c'est-à-dire que c'est vraiment le cultivateur, l'espérance, c'est cultivateur qui regarde. Il ne sait comment. Il y a une partie qui l'échappe, évidemment, parce que c'est l'esprit de pauvreté. La vertu de l'espérance en nous réclame un esprit de pauvre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas bien. Dieu est Dieu. Nous, on est homme. Dieu est Dieu. Et alors, il fait des choses que de Dieu. Et alors, on accompagne Dieu à l'œuvre, mais il a ses manières à lui. Il a ses plans à lui, ses instruments à lui. C'est lui qui fait. Et alors, ça demande, lorsque nous sommes dans l'espérance, lorsque nous sommes espérants, d'être pauvres de cœur. C'est quelque chose de très important. Le riche, il veut tout maîtriser, il veut tout savoir. Et il dit, Seigneur, c'est par là qu'il faut passer. Ton Messie, j'ai bien compris que tu allais l'envoyer, mais c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Non, non, non. Si le Seigneur a promis la venue du Messie, c'est qu'il a ses moyens et sa manière à lui. Mais par contre, il demande au peuple d'Israël de rester, de garder dans l'espérance et que cette espérance soit vive. Mais celui qui espère, les tenants et les aboutissants, il ne sait pas bien, il ne sait pas bien. C'est comme vraiment la semence germe et pousse, il ne sait comment. Ça pousse. Et alors celui qui est dans la foi, l'espérance, il se réjouit. Il se réjouit. C'est le pauvre qui se réjouit, le riche est tout le temps triste. Il râle tout le temps, le riche. Parce qu'évidemment, Dieu ne fait jamais comme les hommes, évidemment. Mais celui qui est avec Dieu, il se réjouit que Dieu soit Dieu et que Dieu fasse ce qu'il a à faire, c'est-à-dire que des desseins, non pas de malheur, mais de paix, pour nous donner un avenir et une espérance. Alors Seigneur, vraiment avec Marie, qui n'a plus d'espérance à l'heure actuelle, qui est au ciel. Et dans le mystère de la communion des saints, nous avons part, comme on dit, à ses mérites, c'est-à-dire à sa foi, à son espérance, sa charité, toutes ses vertus, toutes ses qualités de cœur de la Vierge Marie sont pour nous. C'est à nous, et nous recevons ça aujourd'hui. Et nous choisissons de pratiquer l'espérance, une espérance inébranlable. Amen. Alléluia. Soyez bénis vraiment pour l'espérance que vous avez déjà. Prenez en vous aujourd'hui la qualité de l'espérance de la Vierge Marie. Vous allez voir, ça va vous rendre inébranlable. Vous allez être stabat, voyez, debout au milieu de tout, paisible au milieu de tout, avec des racines qui viennent du ciel. Et voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.